France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Robin des Bois, nous partons sur les traces d'un brigand au grand cœur. Un brigand, ou plutôt des brigands, tant l'image de Robin des Bois est plurielle selon les différentes versions qui en ont été données à travers les siècles, des chroniques médiévales aux séries télévisées, en passant bien sûr par le dessin animé. Robin des Bois est une bande de brigands à lui tout seul.
Tu sais, Robin, je me pose une question. Sommes-nous d'honnêtes ou de malhonnêtes gens? Est-ce que c'est bien de dérober aux riches afin de nourrir les pauvres?
Quoi?
C'est là une expression peu convenable. Nous autres, nous empruntons à ceux qui ont trop de fortune.
Sa capture est un problème difficile, monseigneur.
Un Saxon vous nargue?
C'est un brigand qui fait parler de lui, milady.
Ouais, un impudent coquin, un risque-tout qui court la province et qui soulève les Saxons contre l'autorité. Mais qui a l'insolence de se poser en protecteur du pauvre peuple opprimé.
Mais si Robin de Locksley, par la mort Dieu, son nom commence à m'échauffer les oreilles, quel est son dernier outrage?
Robin de Locksley, déclaré hors la loi et condamné à mort.
Va retrouver Robin aux chaînes des pendus.
Toute personne qui lui prêtera aide ou asile sera pendue.
Va retrouver Robin aux chaînes des pendus. Robin est dans le bois de Sherwood.
Aux chaînes des pendus.
Robin est dans le bois de Sherwood. Robin est aux chaînes des pendus.
Persifleur, jamais là quand il faut.
Aux chaînes des pendus.
J'arrive, j'arrive. Je suis un guéluron.
Mais où donc est Robin des Bois? Aux chaînes des pendus, bien sûr, Galuron. Bonjour à cette bande de brigands aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Justine Breton, William Blanc, Jonathan Fruoco. Bande de brigands authentiques. Avec cet ouvrage, Robin des Bois, de Sherwood à Hollywood, publié chez Libertalia. Moi, je voudrais avant tout que vous m'expliquiez ce paradoxe absolu sur le nom même d'un des personnages les plus connus de notre histoire, ce Robin des Bois. Qui n'est pas du tout des bois à l'origine. Qui m'en parle? Jonathan Fruoco.
Avec plaisir. Robin des Bois, c'est vrai que bon, en anglais, on a Robin Hood. Et pendant très longtemps, même en France, on va avoir Robin Hood qui reste, puisqu'au 19e siècle, quand on a les romans attribués à Alexandre Dumas qui paraissent, ça reste Robin Hood le proscrit.
H-O-O-D.
Voilà. La capuche, Robin, la capuche, littéralement. Et d'ailleurs, dans les premières représentations un peu iconographiques, on a ce Robin qui n'est pas le Robin à la William Blanc d'aujourd'hui que vous ne voyez pas avec le chapeau traditionnel de Robin des Bois, mais c'est vraiment une capuche. Et une des raisons avancées pour ce changement de nom, finalement, c'est ça a souvent été la grande capacité des Français à parler anglais, reconnue de tout temps et par tous. Et c'est un prof d'anglais qui dit ça. Je vais me faire des amis ce matin.
Il faut admettre que la proximité entre Hood, la capuche, et Wood, Wood,
c'est ça. Et en fait, la graphie a longtemps évolué. C'est-à-dire qu'on a eu des Hood écrits W-H-O-D, ou H-O-D tout simplement. En fait, rien n'était fixé pendant très longtemps. Donc Robin Hood dans les textes médiévaux s'écrit de différentes façons et se rapprochait souvent de Wood, forêt.
Ça veut dire que seulement nous, en France, nous avons un Robin des Bois, au sens où ailleurs, si l'on a respecté la traduction du Hood, H-O-O-D, on a des Robins à la capuche un peu partout. C'est comme ça qu'on doit le concevoir?
Oui, mais sachant que on a vite aussi associé le personnage à la forêt de Sherwood, donc on va de toute façon avoir tendance à représenter les aventures de Robin et des joyeux compagnons dans la forêt. Donc ça facilite aussi, hein, nous, quand on va avoir des films traduits en français ou des choses comme ça. Certes, parfois Robin a une capuche, mais il vit aussi dans les bois, donc ça passe.
Et parfois, il a un chapeau. William Blanc, vous êtes historien, médiévaliste, spécialiste de la fantaisie, des représentations du Moyen-Âge dans les cultures populaires. Un sujet sublime à explorer à travers vos ouvrages. En l'occurrence, ici, c'est Robin des Bois. Quel est ce chapeau que vous portez en ce moment sur la tête?
D'accord. En effet, donc c'est le chapeau en fait que porte Robin des Bois, mais depuis le 19e siècle, hein, le fameux chapeau pointu vert avec une plume en fait, hein, donc c'est un chapeau qu'on lui attribue depuis le 19e siècle, hein, seulement. Et c'est assez amusant de voir les évolutions de la représentation de Robin, parce que quand on a des gravures au 18e siècle sur Robin des Bois, on le représente plutôt comme un personnage élisabétain en fait, hein, donc plutôt type fin 16e, début 17e. Alors et puis c'est pareil sur la couleur, en fait. Alors, pour continuer sur le chapeau, en fait, hein, ça c'est amusant, mais depuis le début du XXIe siècle, on le représente à nouveau avec une capuche, mais c'est plus une allusion. Alors, ça vient notamment des super-héros, en fait, hein, parce que vous avez un super-héros qui est directement inspiré de Romain Desbois, donc c'est Green Arrow, en fait, hein, donc de DC Comics. Mais... ce qui est assez amusant, c'est que depuis, en gros, les années 2000, on lui remet une capuche parce que c'est une allusion, en fait, au hoodie, en fait, hein, donc au sweat capuche, en fait, hein, des classes populaires, et puis aussi, hein, bah, tout bêtement, qu'on a dans les manifs avec où il y a des émeutes, en fait, hein, donc avec un côté très revendicatif, hein, ce qui fait que maintenant, dans beaucoup de versions de Romain Desbois, le dernier film de 2018, par exemple, c'est comme ça, il est à nouveau représenté avec une capuche et plus avec ce chapeau, hein, pointu, avec ce chapeau
et
pointu.
Et pas en vert.
Et ça, c'est pareil, l'évolution. Parce que la couleur verte, elle est associée à lui, ça c'est Jonathan qui pourra en parler mieux que moi, mais elle est associée à lui depuis le Moyen-Âge en fait, mais c'est, ça évolue, et là en ce moment c'est plus, en effet, plutôt ça tire vers le noir en fait.
Teintes
plus sombres qui font une référence aussi un peu voilà, aux manifestants. Quoi.
Jonathan Fruoco avec ici cette couleur verte, vous êtes historien, médiéviste, vous êtes traducteur, parce qu'on va avoir besoin d'être au plus près des textes pour essayer de saisir ce Robin des Bois. Avec une image qui s'impose en tête, nous sommes à la radio, et bien souvent l'image qui vient, c'est celle issue du dessin animé de Walt Disney ou alors des grands films des années 1930. Et c'est là où on retrouve ce chapeau, hein, William
oui,
Blanc.
Tout à fait, ouais, ouais.
C'est ici, et c'est formidable parce qu'il y a de la Technicolor, même dans nos cerveaux à la radio. Donc la couleur verte est attribuée à Robin des Bois. Ça va bien aussi avec l'idée de forêt?
Bah, ça va très bien avec son idée de forêt. Puis il y a un côté très pratique, dans le sens où effectivement, pour un hors-la-loi vivant en forêt, il y a un côté camouflage évident. Mais c'est une couleur aussi qui est... associé d'entrée de jeu avec la classe sociale à laquelle appartient Robin dans les premiers textes, à savoir la classe des yeomen, qui sont, pour résumer, une classe paysanne intermédiaire, qui sont, ce sont pas des serfs, mais ce sont des petits propriétaires terriens déjà. Donc, et Robin, dans les premiers textes médiévaux et post-médiévaux, est clairement associé à cette classe sociale-là. Et donc, le vert de Lincoln, qui est cité comme étant la couleur des vêtements, de la capuche de Robin et des Joyeux Compagnons, est très spécifique. Et pourquoi ce vert finalement? Outre le fait que ce soit une couleur peu noble, parce qu'elle a tendance, et ça c'est Michel Pastoureau qui expliquait ça, c'est que ça a tendance à se délaver finalement, c'est des mélanges de couleurs, donc on a tendance à l'éviter dans la noblesse, et elle est associée à une classe sociale autre.
Michel Pastoureau a été cité, Michel Pastoureau.
C'est une couleur qui a à voir avec le destin, avec la fortune, avec la chance et la malchance, avec le gain et la perte. C'est une couleur qui est pensée comme instable, qui a à voir avec tout ce qui est instable. Ça permet d'en faire la couleur de la jeunesse qui passe, la couleur de l'amour qui passe aussi, la couleur de l'espérance qui est souvent déçue, la couleur du jeu, la couleur du hasard, vraiment la couleur du destin. Et en tant qu'historien, je m'interroge depuis assez longtemps sur pourquoi ce rôle de la couleur verte qui est toujours symbole d'instabilité. Et l'une des réponses que l'on pourrait apporter, c'est que pendant des siècles, l'homme occidental a eu beaucoup de mal à fabriquer des couleurs vertes, tant en peinture qu'en teinture, qui soient stables. Le vert, c'est une couleur chimiquement instable, et je me demande s'il n'y a pas un pont entre ce vert chimiquement instable et le vert symbole de tout ce qui est instable, à commencer par l'espoir, la chance, la jeunesse et l'amour. C'est ça l'idée de la couleur verte, l'idée symbolique principale, je crois, fortune et infortune, chance et malchance, destin, c'est la couleur du destin.
Michel Pastoureau sur France Culture en 1993, ça correspond bien à l'image de Robin des Bois, hein. L'instabilité, le destin et puis une forme de joie. Mais là, je m'adresse à vous trois, ne suis-je pas victime des représentations que l'on m'a imposées à travers le cinéma avec un Robin des Bois qui sifflote dans la forêt avec ses compagnons, Justine Breton.
Bah, déjà, on parle de Robin et des joyeux compagnons. Donc, dans le nom, hein, des Merry Men en anglais, c'est la même traduction. Donc, on a déjà cette idée de vie en communauté très paisible, très harmonieuse, parce que c'est une vie dans les bois, avec ce qu'on va associer aussi aux sociétés pré-industrielles. Donc, l'idée du Moyen-Âge comme un temps plus simple, plus naïf, où tout fonctionnait beaucoup mieux et où, malgré la difficulté et en l'occurrence les injustices, qui explique pourquoi Robin et ses compagnons vivent au banc de la société. Ils sont malgré tout, en fait, une bonne bande de copains. Et on oublie complètement toute l'adversité que ça peut impliquer et on va focaliser sur les aventures bon enfant qu'on servait aussi à transmettre les récits autour de Robin, même à un jeune public, pour montrer que bah, c'est des copains qui jouent dans les bois, en fait.
William Blanc.
Ouais, il y a un aspect qui est central, je pense, dans le mythe de Robin des Bois depuis son apparition au Moyen Âge. En fait, hein, c'est l'aspect carnavalesque, en fait. Hein, donc, un aspect de fête, de transformation, de déguisement, où au moment où on renverse aussi un peu les valeurs, quoi, en fait. Hein, donc ça, c'est alors là, pareil, Jonathan pourra en parler aussi. Hein, c'est il y a aussi dès le début, en fait, ou très rapidement, il y a des fêtes de village qui tournent autour de Robin des Bois, des pièces de théâtre populaires aussi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même central. Qui est quand même centrale dans cette légende.
Jonathan Fruoco, on a parlé des sources et de la traduction, mais avant même de pouvoir traduire des choses, il est certain qu'il y a, à l'oral sans doute, des histoires autour d'un certain Robin à la capuche, hein, il n'est pas encore des bois.
Ouais, et en fait, c'est toute la beauté de la légende de Robin des Bois, c'est qu'initialement elle se transmet oralement et son arrivée à l'écrit est relativement tardive. C'est vraiment quelque chose... La première référence écrite vraiment littéraire qu'on a de Robin des Bois, c'est William Langland dans Pierre le Laboureur, on est en 1377. Et donc, on nous fait référence à ces rimes de Robin des Bois comme étant déjà ancrées dans la conscience populaire. Le personnage dit qu'il ne connaît pas son notre père, mais il connaît les rimes de Robin des Bois, ce qui est assez fort au Moyen-Âge. Et cette idée-là donc nous montre que Robin des Bois est, quoi qu'il arrive, transmis déjà oralement depuis suffisamment longtemps pour remplacer dans la conscience des gens, par moments, les prières qui rythmaient la vie de chacun.
Voilà, une sorte de médiévalisme déjà au Moyen-Âge. Justine Breton, vous êtes maîtresse de conférences en médiévalisme et en littérature comparée à l'Université de Lorraine. Vous êtes habillée de vert aujourd'hui et c'est très élégant, clin d'œil à Robin des Bois. Et pour définir ce mot de médiévalisme, parce que c'est important pour saisir qui est Robin des Bois, je voudrais que vous me présentiez votre gourde. Qu'est-ce que c'est que cette gourde?
Je suis ravie d'être la gourde de service.
Non, elle est exceptionnelle, cette gourde.
Oui, alors j'en profite effectivement, hein, c'est une gourde, alors c'est purement du plastique, mais qui a la forme d'une corne. Vous ne pouvez pas voir, puisque c'est la magie de la radio. Mais c'est la joie d'être médiévaliste jusqu'au bout de mon thé qui m'accompagne partout.
On se croirait dans les bandes dessinées qui présentent les peuples du Nord en train de boire de la bière dans des cornes.
C'était ça, ou les crânes de mes ennemis, mais j'essaye de me calmer. Donc je bois plutôt dans une corne en plastique, recyclable. Voilà, c'est mieux pour l'environnement.
C'est quoi ça, ce médiévalisme ?
Le médiévalisme, en fait, c'est la représentation et l'usage du Moyen-Âge en dehors du Moyen-Âge. Donc comment on met en scène ou comment on fait appel au Moyen-Âge, par exemple à notre époque contemporaine ou depuis le XVIe siècle, hein, globalement. C'est-à-dire que on va toujours percevoir la période médiévale avec une certaine déformation au prisme de nos propres envies, nos propres attentes, nos propres peurs aussi. Donc une figure comme Robin des Bois va évoluer au fil des époques en fonction de ce qu'on va vouloir projeter sur le Moyen-Âge pour parler en fait à chaque fois de nous. C'est très, très égocentrique, le médiévalisme.
Avec cette question qui est peut-être la première que j'aurais dû vous poser, Robin des Bois a-t-il existé ?
Non,
a priori on est dans une création, alors c'est toujours compliqué, mais c'est un peu comme le mythe arthurien, on est dans une création littéraire en fait, hein, donc une création même pas littéraire en l'occurrence, hein, comme l'a dit Jonathan, en fait, hein, c'est une création a priori orale, hein, et puis qui a été couchée par écrit plus tardivement, bon. Quoi.
On a potentiellement quelque chose. En fait, on sait que historiquement, de nombreux chroniqueurs à travers les âges ont essayé de situer Robin des Bois pour essayer de vraiment comprendre à quel moment le vrai Robin des Bois a pu agir. Tout ça, c'est très imaginatif. Hein. On est au 15e, 16e siècle, etc. Et c'est toujours motivé plus politiquement que par de réelles recherches historiques. Les origines même de Robin des Bois se perdent finalement dans cette oralité. Et il est très probable qu'on ait quelque chose à l'origine, peut-être, parce qu'on sait que ces histoires servent aussi à un moment donné à transmettre justement une petite histoire locale. C'est un personnage inscrit dans un patrimoine vraiment du nord de l'Angleterre, il est attaché à cette région, et on se dit qu'il est possible qu'à l'origine on ait eu quelque chose, un brigand dont les histoires aient pu être ensuite transformées au fur et à mesure. On a d'ailleurs, on voit différentes figures s'associer à ça. On a différents éléments de folklore liés à la forêt, liés au nord de l'Angleterre, qui vont se mêler à ce personnage.
Ouais, ou voir des brigands en fait qui ont été regroupés entre eux.
Exactement.
C'est possible en fait. Là-dessus. Voilà.
Ouais. C'est la difficulté, comme la légende prend vite de l'ampleur de façon orale. On a, on va dire, des vrais brigands qui vont vite se revendiquer de ce nom de Robin des Bois parce que c'est prestigieux.
En plus, ouais.
Donc ça brouille tout de suite les sources pour pouvoir trouver un véritable Robin des Bois.
Tout se mêle ici et j'aime beaucoup ce que vous disiez, William Blanc, la comparaison avec la légende arthurienne, le roi Arthur que vous avez étudié également. On a un phénomène pareil, c'est étonnant même de se dire à quel point ce personnage du roi Arthur semble avoir existé, tout comme Robin des Bois, tellement la légende est forte. On peut dire que c'est un gros succès, hein. Très vite, ces légendes sont vraiment diffusées, sont connues, on en parle comme si on les connaissait réellement.
Oui, alors il y a la grande différence en fait, hein, c'est que voilà, là on est dans une légende qui vient de l'oralité, hein, pour le coup, donc avec le mythe de Robin des Bois, alors que le roi Arthur, on est plutôt dans une légende en fait qui est couchée par écrit très rapidement et qui vient en fait de l'élite en fait, hein, donc notamment de l'élite ecclésiastique. Et ce qui est assez intéressant, ce que tu disais en fait, Jonathan, c'est que on a essayé de placer Robin des Bois en fait, hein, et donc il y a un aspect politique à ça, c'est qu'on essaie de placer, parce que dans les premiers textes de Robin des Bois, donc mi-15e siècle, quand on parle d'un roi, le roi est pas nommé, quoi, en fait. On sait pas quel roi c'est un roi générique, en fait. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que les chroniqueurs vont essayer de placer petit à petit la vie de Robin des Bois, donc à l'époque, notamment de Richard Cœur de Lion, hein, donc de la Troisième Croisade, et puis en effet de l'interrègne, en fait, hein, du prince Jean, en fait. Hein, donc, et ça, c'est extrêmement intéressant parce que là, il y a une transformation majeure de la légende, parce que là, pour le coup, la légende est peu à peu couchée par écrit. Elle est adaptée au théâtre. Elle est adaptée au théâtre, notamment par Anthony Bonday, en fait, hein, donc fin 16e siècle, qui fait deux grandes pièces. Et là, pour le coup, il transforme Robin des Bois de yeoman en noble. Et son but, c'est pas juste de voler, en fait, hein, donc notamment de voler des riches, en fait, hein, donc c'est pas un yeoman qui vole des riches, hein, voire aussi des ecclésiastiques, comme dans les premières ballades. C'est un noble qui se bat pour son roi. Donc évidemment, le sens de la légende à les transformer radicalement. Pourquoi ? Parce qu'on est au théâtre, et le théâtre, en fait, hein, c'est aussi des pièces qui sont en direction et qui sont faites pour la noblesse, hein, et qui sont financées notamment par des nobles, hein, voire carrément par la cour, hein, directement. Donc ça, c'est une transformation qui est très importante, qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de légendes.
Et ce qui est vraiment aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, William, c'est vrai que tu cites Anthony Monday, et donc Monday fait évoluer socialement Robin des Bois, et ça, c'est assez symptomatique de toute l'évolution générique de la légende depuis sa première apparition par écrit. On a affaire à un millefeuille, en fait, où l'histoire avec un grand H et la littérature se mêlent couche par couche systématiquement. C'est-à-dire qu'on a une itération narrative à laquelle des chroniqueurs vont essayer de donner sens en le plaçant historiquement, et de là, on va construire un autre récit, et quand Monday nous parle de ce conte de Huntington, il s'appuie sur le travail d'historiens plus récents qui avaient essayé déjà de faire évoluer le personnage.
Christine Breton.
Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces effets de localisation, à la fois géographiquement et temporellement, ça va permettre de préciser petit à petit la légende et les récits. Et en même temps, ça circonscrit en partie sa diffusion. On parlait de la légende la légende du roi Arthur, qui a une diffusion très vaste, à la fois de façon orale et de façon écrite, mais qui va être très vite appropriée à la fois en Angleterre, en France, etc. Alors que les histoires de Robin des Bois, elles circulent beaucoup en Angleterre, on a beaucoup de choses, ensuite ça va s'exporter aux États-Unis. En France, ça nous revient que tardivement par l'intermédiaire justement de cette appropriation par la culture de masse, par les réécritures, alors théâtrales de jeunesse aussi, mais après beaucoup par le cinéma. Et en fait, Robin des Bois arrive en France assez tard dans notre culture populaire. Donc là, c'est une grosse différence aussi dans cet ancrage.
Je reprends l'image du millefeuille parce que c'est extrêmement parlant. Quand nous mangeons un millefeuille, nous coupons toutes les feuilles d'un coup. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est d'essayer de manger le millefeuille feuille par feuille pour essayer de saisir comment cela se construit. Première feuille qui nous conduit au XVe siècle.
Écoutez-moi bien, gentilhomme. Vous qui avez du sang d'homme libre, je vais vous parler d'un bon yeoman. Son nom était Robin des Bois. Robin était un fier hors-la-loi, tandis qu'il marchait parmi nous. Nul ne trouva jamais nulle part un hors-la-loi si courtois. Robin se tenait à Barnsdale, appuyé contre un arbre. À ses côtés se trouvait Petit Jean. C'était un bon yeoman. Il y avait aussi ce bon écarlate, et Much, le fils du meunier. Il n'était pas plus grand qu'un pouce, mais il valait bien un homme. Robin avait alors une bonne habitude. Quel que soit le lieu où il se trouvait, chaque jour, avant de dîner, il écoutait trois messes. Une première louant le Père, une autre pour le Saint-Esprit, la troisième pour notre chère dame qu'il aimait plus que tout. Robin aimait notre chère dame. Par crainte de péché mortel, il ne ferait jamais de mal à une compagnie dans laquelle se trouverait une femme.
Thomas Beau qui nous lisait La geste de Robin des Bois. Nous sommes au milieu du XVe siècle. C'est une traduction que vous avez réalisée, Jonathan Fruoco. Quel est le Robin des Bois ici qui est présenté au XVe siècle? Alors, on l'a bien dit, hein, des traditions orales, des récits qui sans doute s'entremêlent, qui construisent peu à peu un personnage. Celui qui nous est présenté ici, qui est-il?
C'est ce bon yeoman, comme on l'entend là, et c'est un personnage qui est replié dans la forêt de Barnsdale. On n'est pas encore à Sherwood, ça viendra beaucoup plus tardivement. C'est la première forêt associée avec Robin. Et on est sur un personnage, on l'a entendu là, déjà très ancré dans son époque aussi, très religieux. Et essentiellement louant un culte à la Vierge Marie. C'est quelque chose qui va être fondamental dans l'évolution de la légende et dans l'apparition d'un certain personnage. Et là, je renvoie la balle discrètement à Justine Breton.
Qui l'a saisi au vol.
Exactement. Parce que oui, on associe toujours la légende de Robin des Bois au personnage de Marianne, hein, belle Marianne. Mais le premier amour de Robin, c'est Marie, la Vierge Marie. Puisque il va recommander ses hommes à la Vierge, il va la prier régulièrement. Et c'est que par la suite qu'on va faire fusionner en fait la légende de Robin qu'on avait d'une part et d'autre part le personnage de Marion tel qu'il apparaît par exemple chez Adam de la Halle hein, dans le jeu de Robin et Marion. Il y a déjà un Robin mais c'est pas le même, c'est un simple paysan. Et dans le jeu de Robin et Marion, on a une jeune bergère qui repousse les avances d'un chevalier pour lui préférer le gentil paysan Robin. Et en fait ce personnage là va, le personnage de Marion, donc Marianne, hein, ça se prononce un peu de la même façon en anglais, c'est le même prénom, Marion et Marianne. C'est deux diminutifs de Marie, ce sont des petites Maries. Et on va associer ce personnage printanier qu'on va associer aux fêtes de mai et aux célébrations pastorales. Petit à petit, on va fusionner ça avec la légende de Robin qui se développe et qui est déjà associée à la forêt. Donc on a ce côté pastoral qui est déjà assez présent. Et Robin va gagner comme ça un compagnon supplémentaire, mais surtout une amante, une maîtresse. Et à partir du moment où, au XVIe siècle, Robin devient un lord, on lui associe une lady, parce qu'un lord ne pourrait pas se déplacer sans lady attitrée. Donc à partir de là, elle devient la femme, l'épouse de Robin.
William Blanc.
Ouais, et c'est alors. En effet, tu parles de célébration et célébration. Hein, donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui vont devenir aussi, bah, tout bêtement, des occasions de faire du théâtre improvisé, du théâtre de rue, en fait, hein, voire des fêtes, des charivaris qui peuvent aussi déborder. Ça, c'est très intéressant. On a des sources judiciaires, hein, donc médiévales, où on a des charivaris, des gens déguisés en bois des bois, bah, qui provoquent des émeutes, hein, tout bêtement. Hein, et puis, quand ils sont traînés devant le tribunal, ils disent "Non, mais en fait, c'était un jeu. Voilà, c'était une blague. On jouait à Robin des Bois. Voilà. Donc, c'est intéressant et aussi il y a un autre aspect qui est très intéressant, c'est que, alors, dans ce texte-là, qu'a traduit en effet Jonathan, évidemment, Robin étant un yeoman, il n'a pas une arme de noble. L'arme de noble, c'est l'épée et la lance. Hein, donc, Robin, il a un arc, hein, déjà, évidemment, parce que l'arc, c'est notamment chez les yeomen que se recrutaient, hein, vous savez, les fameux archers anglais, hein, qui ont plusieurs fois vaincu la chevalerie française. Donc ça c'est aussi cet aspect-là, il est important. Et puis hein, dans cette chanson-là, hein, c'est ce que dit Robin dans la suite. Hein, donc hein, il dit vous ne toucherez pas non plus quand il parle à Petit Jean. En fait, hein, vous ne toucherez pas. Veillez à ne jamais nuire à un petit paysan qui laboure sa terre avec sa charrue. Vous ne toucherez pas non plus au boyomen marchant dans les fourrés des vertes forêts, ni au chevalier ou à l'écuyer qui se montrera bon compagnon. Vous frapperez ligoté, ça c'est intéressant, ces évêques et ces archevêques, et gardez bien en mémoire le grand shérif de Nottingham. Ce qui fait qu'en fait, c'est assez amusant de voir que leur principale cible, c'est la hiérarchie ecclésiastique, en fait. Donc, et ça, on est dans une époque où l'Angleterre est quand même touchée par un début de proto-réforme avec Wycliffe. Donc ça, c'est extrêmement intéressant.
Ouais, parce que chaque œuvre est le produit de son temps, on le voit bien ici, avec, et vous l'avez déjà défini, ces yeomen. Qui sont-ils? On peut rappeler un petit peu qui ils sont, parce qu'on utilise aujourd'hui dans le cours de l'histoire ce mot. Vous l'utilisez avec beaucoup d'aisance. Ce sont pas des paysans, ce ne sont pas des nobles. Enfin, ils sont paysans plus, quoi.
Ouais, c'est des paysans aisés, ouais. Donc,
voilà,
ils sont quand même propriétaires terriens.
Ils sont propriétaires terriens, ouais.
Voilà, donc ils sont pas tout en bas de la hiérarchie, qui sont pas non plus des nobles, bien installés. Mais ils ont une certaine possibilité d'évoluer, une certaine latitude aussi dans leurs faits et gestes, ce qui permet à un personnage comme Robin d'évoluer aussi pas mal dans toutes ses aventures.
Et ce qui montre en fait aussi que, en fait, avec ces textes-là, et qu'il y a un développement de conscience de classe sociale, en fait, hein, de ces yeomen là. En fait, ils ont une espèce de sentiment, en fait, hein, d'appartenir à une classe et d'avoir une certaine puissance, un certain pouvoir politique, notamment parce qu'ils servent dans l'armée. En fait, et évidemment, ce sont les principaux responsables. Hein. C'est grâce à eux, notamment, que la couronne anglaise peut battre plusieurs fois les armées des rois de France.
Hein, épisodes comme Azincourt, etc.
Donc 1415. Donc c'est là, en fait, ce que traduisent aussi ces chansons là, c'est voilà une forme d'expression d'une classe sociale.
C'est assez symptomatique aussi parce que voilà, le 19e siècle nous a donné l'habitude de voir tous ces textes médiévaux, notamment la geste de Robin des Bois, comme une ballade. Or, on sait, voilà, d'un point de vue littéraire, la ballade, c'est un genre assez spécifique avec des règles fixes. Et les ballades, entre guillemets, de Robin des Bois sont faites, appartiennent à un genre littéraire, yeomen, avec ses règles à elle propre. Et on le voit en fait dans les textes, dans l'oralité même, quand le narrateur s'adresse à un public, il s'adresse à un public de yeomen, et on a ce sentiment justement d'une déclamation publique et peut-être d'un ménestrel, ou enfin de quelqu'un dépendant aussi de la générosité de la classe autour de lui pour pouvoir alimenter, pour pouvoir en vivre. Donc on a cette conscience de classe, comme disait William, qui va s'exprimer de point de vue littéraire. Donc on gagne en prestige aussi.
Avec ce millefeuille, nouvelle feuille.
Dieu soit ici. N'est-ce pas la sainte parole pour un frère? Dieu sauve toute cette compagnie. Mais ne suis-je pas un joyeux frère? Car je peux tirer à l'arc à toute distance, manier épée et bocle, ainsi que cet assommoir. Si d'aventure je rencontrais quelque gentilhomme ou yeoman, je n'aurais aucunement peur de le fixer du regard, ni de lui parler bravement. S'il m'adressait la parole, il recevrait deux ou trois coups cinglants qui lui cuiraient bien le corps. Mais messire, je vous décrirai comment et pourquoi je suis venu ici et, par ma foi, je ne vous cacherai rien. Je suis venu ici en quête d'un bon yeoman qui, selon les dires des hommes, aurait fait de Barnsdale sa demeure. Son nom est Robin des Bois, et s'il se révèle être meilleur homme que moi, alors je serai son serviteur et je le servirai loyalement. Mais si je me révèle être meilleur que lui, sur mon honneur, il sera mon laquais et mènera ses trois chiens.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Pièce de théâtre sur Robin des Bois, lue par Raphaël Laloum dans le cours de l'histoire. Ici, nous sommes au milieu du XVIe siècle. C'est un peu le théâtre, William Blanc, que vous évoquiez. Hein. C'est cette mise sur scène du personnage de Robin des Bois. Il est déjà partout. Hein. Il y a l'oralité, il y a l'écrit, il y a le théâtre maintenant. Quel Robin des Bois est-ce maintenant ?
Bah en fait là on est face en fait à un roman qui se transforme radicalement, parce que au XVIe siècle il y a aussi de nouveaux personnages qui s'ajoutent en fait à la légende. Justine a parlé de Marianne. Bon là il y a aussi Frère Toc qui va arriver quoi en fait, hein, donc et ça c'est extrêmement intéressant, c'est exactement comme dans le mythe arthurien en fait, hein, des personnages se rajoutent, hein, donc et vous avez des personnages même qui existaient au début, hein, le premier extrait que vous avez lu, on parle par exemple de Much, hein, le fils du meunier, ou de ce bon écarlate, hein, c'est Will Scarlet, hein, Will l'écarlate, là pour le coup c'est des personnages qui sont un peu oubliés en fait, hein, donc qui sont mis en retrait, hein, parce que vous parlez de Millefeuille, c'est intéressant, c'est que pensez bien que chaque auteur ou chaque autrice qui va s'emparer de la légende, ou chaque artiste, en fait, va aussi enlever une feuille, ou en rajouter, en fonction de ses envies, en fait, hein, donc, et en fonction des attentes du public aussi. Donc voilà, on a des personnages qui ont aussi, bah, littéralement, en fait, Alana Dale, par exemple, pour moi, qui connaît Alana Dale aujourd'hui, alors que c'est un personnage qui est très important dans la légende, en fait, hein, donc.
Oui, parce que il y a de cela, hein, des personnages qui arrivent, qui s'en vont, c'est l'image d'une société, on l'a bien dit. Est-ce que la lecture de ces aventures de Robin des Bois, quelle que soit la forme, nous renseigne sur la société? Bien sûr, on le sait. Mais est-ce que c'est pas difficile quand même, parce que ce sont des visions très déformées, avec un regard particulier. Ça nous apprend quand même de cette société britannique, hein, et je le rappelle, parce que comme vous le disiez, Justine Breton, l'arrivée en France notamment, c'est beaucoup plus tardif.
Mais c'est vrai qu'on peut interpréter, mais c'est jamais des reflets directs. Il faut toujours percevoir un petit peu cette déformation qu'il y a par la fiction, hein, notamment. Et le personnage de Frère Toc est assez intéressant, justement, parce que on l'ajoute petit à petit. Il va devenir un personnage de plus en plus récurrent, en fait, dans les aventures, jusqu'à faire partie vraiment intégrante de ses joyeux compagnons. Mais William Blanc l'a bien dit tout à l'heure, on a une tendance à montrer Robin dans les premiers temps comme une figure, alors, anticléricale, ou en tout cas qui va chercher à kidnapper parfois des évêques ou des personnages de religieux qui seraient puissants. Mais on va avoir petit à petit l'intégration de ce personnage de Frère Toc, qui est certes un religieux, mais j'ai envie de dire un religieux qui respecte pas toujours ses vœux, et qui a une vision de la religion qui est un peu au cas par cas. Parce que on a des aventures où il va voler avec Robin, où il va piller aussi, il va utiliser aussi des armes. Alors lui, il ne fait pas couler le sang, il a tendance à utiliser une massue. Hein, donc c'est une interprétation aussi des textes qui est assez intéressante. Mais on rajoute quand même le personnage, ce qui montre que Robin a quand même une figure spirituelle avec lui. Il a un personnage qui va être une espèce de guide aussi, mais qui n'est pas un ecclésiastique très puissant. C'est plus un moine, on va dire, de basse hiérarchie, qui fait de lui aussi un bon vivant.
Voleur, scélérat ! Rends-moi mon gigot immédiatement !
Oh !
Si tu es un voleur, tu n'as rien à espérer de moi. Je ne suis qu'un humble moine et j'ai fait vœu de pauvreté.
Eh bien, si c'est ça ta pauvreté, je veux bien partager avec toi.
Il me semble que c'est ce que tu fais. Vas-tu me rendre mon gigot de mouton ?
Pas si près, mon pesant ami. J'ai deux mots à te dire.
Lesquels ?
J'habite la forêt avec un certain nombre de compagnons qui ont tout ce qu'il leur faut, excepté un guide spirituel. Et qui n'ont qu'un titre d'honneur.
Et quel est-il ?
Nous sommes des hors-la-loi. Et comme nous sommes tous nouveaux venus dans la forêt, nous cherchons quelqu'un pour prier à notre place. Et c'est toi que nous avons choisi.
Non, mon gaillard, ils sont probablement tous aussi voleurs que toi.
Oui, oui, naturellement, mais tu les aimeras bien, tu verras. Mon frère, ne perdons pas de temps.
C'est la rencontre avec Frère Toc dans le film de 1938 de Michael Curtis et de William Kegley, avec ici un frère. Alors, nous l'appelons comment ? Parce que moi, je prends ce nom français, on dit que c'est lui, mais non, il s'appelle comment ? Estoc en anglais ? Il y a un autre nom, parce qu'il y a tout ce problème de la traduction des noms, de l'adaptation. Ce sont des personnages qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, et qui sont adaptés en plus. C'est dur de s'y retrouver, hein.
Oui, bah ça, c'est bon.
Oui et non. On a plein de versions, d'autant que on a parfois des personnages avec le même nom, mais qui vont avoir des caractères différents. On pense au personnage de Petit Jean, par exemple. On en fait un fidèle serviteur de Robin, son bras droit, etc. Et généralement une montagne de muscles, hein, un petit peu. On a des versions où Petit Jean est, alors, il garde généralement ce physique, mais où il s'oppose peut-être un peu plus à Robin, et pas que dans leur première rencontre, mais où parfois il va montrer aussi à Robin qu'il dépasse les bornes et qu'il n'est plus ce chef bienveillant. Donc on a plein de versions aussi, il n'y a pas que les noms qui changent, il y a aussi leur caractère. Mais c'est tout l'intérêt de ces réécritures, c'est que chaque auteur va mettre en fait derrière chaque personnage un peu ce qu'il a envie pour servir son histoire. Et nous, on essaye d'arriver après ça et d'essayer de trouver une cohérence dans l'ensemble des personnages, ce qui est en fait un peu futile et un peu compliqué, mais qui montre aussi comment on a transformé pas que Robin et son contexte, mais l'ensemble des personnages qui gravitent autour aussi.
Jonathan Fréauco.
Oui, sur justement Petit Jean, c'est intéressant parce que dans ces textes que mentionne Justine, on a cette impression que Robin des Bois, par moment, passe au second plan. On a des phases vraiment où c'est Petit Jean qui est mis en avant. Ce n'est pas le serviteur, c'est vraiment une force de la nature et une force décidente. Il s'oppose complètement, effectivement, à Robin, ce qui a longtemps mené à penser que Petit Jean pouvait exister en amont, dans un cycle narratif qui lui était propre, et qu'encore une fois, il s'est greffé, comme les autres personnages, comme Tuck, comme tous les autres, à cette histoire-là, et qu'il a fini par s'associer à Robin.
Oui, d'ailleurs, c'est exactement ce qui arrive, par exemple, à Merlin, dans le mythe arthurien, oui, en fait. Voilà. Merlin, c'est un personnage qui est indépendant et qui est collé au mythe arthurien au XIIe siècle, en fait. Hein, donc ça, c'est intéressant. Et moi, je pense que, même en termes de personnages, justement, pour rebondir sur l'histoire de Merlin, vous avez dans une série anglaise des années 80, qui est une série qui est très connue dans le monde anglophone, mais qui est pas trop connue en France, mais qui a fait un carton à l'époque, on a rajouté en plus, par exemple, un autre personnage qui est une figure, en fait, un peu merlinesque, en fait. Hein, et en plus, dans cette série, il y a des éléments de magie. Alors pourquoi ? Bah tout bêtement parce qu'on a une époque où la fantasy commence à être de plus en plus populaire. Il y a des références aux jeux de rôle, des choses comme ça et tout. Et donc on invente en plus un nouveau personnage qui est une figure en plus Merlin un peu druide, un peu druidique et tout, donc un peu néo-païenne. Enfin voilà, donc c'est assez déroutant, mais en fin de compte, c'est pas scandaleux parce que encore une fois, ça apprend sur l'époque où a été créée cette série, évidemment. Ça, c'est un truc très important. Je pense que dans toutes les œuvres médiévalistes, ça, c'est une phrase que j'aime bien répéter, c'est une espèce de mantra, mais une œuvre médiévaliste vous apprendra toujours plus sur l'époque où elle a été faite que sur l'époque qu'elle est censée représenter. Ça, c'est sûr et certain.
Et on a déjà, cette association avec la forêt. Et on a de plus en plus tendance, mesure qu'on avance et donc qu'on se rapproche de nous, à voir le Moyen-Âge un peu comme une période figée, comme 1000 ans, où c'est un gros sac d'histoire. Ouais. Ce qui fait que ça va faciliter aussi les transitions entre Robin, Merlin, le roi Arthur, etc. Tout ça, c'est des gens du Moyen-Âge qui vivent dans la forêt ou qui ont des aventures dans la forêt. Donc, on va pouvoir... Ouais. White fait des croisements aussi. Enfin, on va avoir différentes réécritures qui associent tout ça et qui montrent aussi ce Moyen-Âge à chaque fois de façon un peu uniforme.
Ouais, où les gens étaient proches de la nature. En plus, il y a cette idée-là qui se développe dès le 19e siècle où le Moyen-Âge était l'époque où les gens étaient proches de la nature alors que nous sommes dans une époque industrielle et tout. Et donc, évidemment, là, le Merlin dont je parlais, l'espèce de pseudo-Merlin, c'est vraiment un peu une espèce de proto-hippie. Enfin, c'est assez marrant.
Justine Breton, White, que vous évoquez.
Oui, pardon. Terence and Dwight White, il signe T.H. White. C'est l'auteur de The Once and Future King. C'est la quête du roi Arthur. C'est une réécriture de la légende arthurienne depuis l'enfance d'Arthur jusqu'à sa disparition. Et dans, on connaît généralement au moins la partie sur l'enfance parce que ça a été adapté par Disney dans Merlin l'Enchanteur en 63. Et en fait, dans cette éducation du jeune Arthur par Merlin, dans le texte, ça n'a pas été regardé par Disney, mais dans le texte, on a un épisode où il va suivre Robin des Bois et Belle Marianne, et il se dit d'ailleurs que Belle Marianne, c'est quand même une femme un peu exceptionnelle, parce qu'elle n'est pas comme les autres, et elle se comporte en fait comme un garçon manqué. Et donc il va suivre des aventures comme ça. Mais on va retrouver un parallèle quand même, au sens où c'est le même réalisateur qui va faire Merlin l'Enchanteur et le Robin des Bois de Disney, la boucle est bouclée.
Avec ces noms que l'on traduit de l'anglais au français, donc avec ce White, pas peur du tout, mais imaginez que c'était William Blanc, mais non, aucun
rapport. Il est partout, mais pas à ce point-là.
C'est pas ça, avec ce personnage extrêmement malléable qu'est Robin des Bois, qui peut prendre des formes très bizarres, vous l'avez dit avec beaucoup de justesse, c'est chaque auteur, autrice qui le saisit et qui en fait un peu ce qu'il veut, presque parfois comme une évocation.
On m'appelle le chevalier. Je vais et je vole au secours d'innocents. Dans la campagne réseau de la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Mon épée est prête à sévir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. Déjà que je suis respecté, du paysan au chevalier. On m'appelle le chevalier. Je vais et je vole au secours d'innocents. Dans la campagne réseau de la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Mon épée prêt à sévir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. Déjà que je suis respecté, du paysan au chevalier. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours innocent. Sans toi ma tête fut mise à prix, jamais personne ne m'a pris. Personne ne me fait ma peur, j'ai pour moi la force et l'honneur. La justice qui de mon bras, jamais rien ne l'arrêtera. La 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 la.
Gérard Lanvin, dans le film Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine en 1977, un film de Coluche. Vladimir Cosma pour la musique du film. Ici, c'est la musique de Serge Gainsbourg. Les paroles sont de Coluche, le chevalier blanc. Pourquoi pas? Parce que pour évoquer Robin des Bois, il y avait Georges Guettari, immanquable. Il y avait Henri Salvador. Robin des Bois a été beaucoup chanté. Mais dans cette déformation d'un Robin des Bois complètement fou, le chevalier blanc trouve sa place.
Mais alors, c'est intéressant parce que moi, ça me fait penser à une œuvre aussi très célèbre qui parle de Robin des Bois. C'est Walter Scott, en fait, Ivanhoé. Hein, parce que Ivanhoé, en fait.
L'enchaînement Coluche-Walter Scott, je ne l'ai pas vu.
Voilà, mais c'est, voilà, donc,
je prends.
Voilà, donc, c'est, voilà, Coluche un peu notre Walter Scott à nous, donc voilà, voilà, donc c'est dit. Et donc voilà, c'est dit sur France Culture. Non, mais sincèrement, le truc c'est intéressant parce que avec Walter Scott, donc il publie Ivanhoé en 1819, qui est un roman médiévaliste, voilà, qui est un des romans qui a établi le médiévalisme, hein, beaucoup de canons du médiévalisme. Que fait Walter Scott? C'est un conservateur. Et dans cette histoire-là, qui va sauver le roi Richard Cœur de Lion? C'est pas Robin des Bois. Robin des Bois, il apparaît dans ce roman-là, mais il apparaît pendant un petit chapitre, en fait, hein, c'est très court. Celui qui va sauver Richard Cœur de Lion, c'est le chevalier Ivanhoé. Et donc là, Walter Scott, qui est un conservateur, en fait, tout bêtement, il transforme la légende pour mettre en avant le bon chevalier, alors que l'homme du peuple, lui, reste derrière, quoi. Ça, c'est très important. Et donc, en fin de compte, oui, on va coller sur un chevalier des éléments de Robin des Bois.
Jonathan Fruoco, au moment de réfléchir au cheminement qu'ont pu prendre ces différentes narrations, ces différentes légendes pour construire peu à peu le personnage, j'ai l'impression que c'est presque vain comme exercice au sens où on peut remonter les textes, trouver les origines, mais c'est tellement complexe, c'est tellement adapté par chaque personne qui se saisit de Robin des Bois que ce n'est pas une accumulation. On parlait du millefeuille, mais c'est bien ça, c'est un millefeuille dans lequel on enlève des feuilles, on rajoute des feuilles, ça nous donne une sorte de gloubi-boulga, mais très intéressant en soi.
C'est un peu la particularité de ce récit, finalement. Et tout à l'heure, on parlait de l'ajout, par exemple, de personnages et de l'évolution. Là, donc, William parlait justement d'Ivanhoé et du fait que c'est le chevalier qui reprend le dessus sur le personnage populaire. Et ben, ça va à contre-courant du fait du conservatisme de Scott, de ce qui avait pu se faire jusque-là, à savoir qu'avec l'arrivée de l'alphabétisation massive, notamment en Angleterre, chez une classe sociale particulière, chez les bourgeois, les artisans, etc., on va avoir de plus en plus de textes qui vont être publiés. On a l'imprimerie qui arrive aussi en Angleterre et qui va faciliter la diffusion de textes. On appelle ça les broadsides, qui sont en fait des balades publiées sur une feuille de papier peu chère et diffusées largement chez une nouvelle classe. Et c'est pour ça qu'on va avoir plein de textes, notamment ça va être Robin le potier, Robin le boucher, Robin le pêcheur. On va Robin qui va se retrouver sur un bateau de pêche à un moment donné. C'est Martine qui se retrouve face à tout le monde. Et il a, en fait, parce que, et à chaque fois c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a la même structure narrative. On va avoir un affrontement avec quelqu'un issu d'une classe d'artisans, de commerçants. Il se tape dessus à coups de bâton parce que c'est très, voilà, c'est une arme très plébéienne. Moi, personne ne tue personne. Et au final, à la fin, ils deviennent amis et l'autre rejoint les joyeux compagnons d'une manière ou d'une autre. Donc, on a systématiquement, on voit ces nouvelles classes, pareil, qui prennent conscience et qui savent lire. Et donc, on a ces récits qui vont les mettre en valeur et les associer aux joyeux compagnons.
Il y a aussi un élément qui est intéressant, je reviens sur Scott, hein. C'est vrai ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, Jonathan, mais en plus, il y a un autre aspect, c'est que il y a un usage, là, parce qu'on parle depuis le début, en fait, de sources littéraires, en fait, hein, mais il y a beaucoup de sources, en fait, hein, politiques de tous les jours, des jugements. Par exemple, très tôt, dès le XVIIe siècle, quand vous avez des insurgés, en fait, hein, on va dire les classes dominantes les appellent, pour les disqualifier, des Robins des Bois, en fait. Vous avez au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, parce que qui touche aussi l'Angleterre, vous avez des Robin Hood Society, donc des sociétés de Robin des Bois, en fait, hein, pour traduire ça littéralement, qui sont des sociétés de débat. Et des sociétés de débat populaires, en fait, hein, qui rassemblent en effet plutôt des bourgeois, des petits bourgeois, des petits commerçants, en fait, hein, dans les villes, notamment à Londres, et qui sont moqués, en fait, hein, par les gens, par les plus puissants. Et c'est pareil, hein, donc le plus grand éditeur, en fait, de ballades de Robin des Bois, c'est Joseph Ritson, hein, donc, qui publie les ballades en 1795, et en fait, lui, c'est un partisan de la Révolution française. Et donc, il fait ses balades-là pour dire, en gros, eh ben, regardez, le peuple peut se révolter, quoi. Donc, vous voyez, Scott, il arrive au bout de tout ça. Et donc, en fait, il essaye, quelque part, de minimiser, en fait, l'effet Robin des Bois, quoi. Donc,
oui, on va avoir un contre-mouvement révolutionnaire, finalement, en Angleterre, à ce moment-là. C'est vrai que Ritson, c'est vrai, il passe du temps en France au moment de la Révolution française. Il revient en Angleterre, il se met à appeler tout le monde citoyen. Dans un pays qui a déjà connu la décapitation d'un roi, ça passe assez mal. Et du coup, il calme un peu ses ardeurs, ouvertement, mais c'est vrai que son édition des textes de Robin des Bois, c'est ça, il nous dit clairement, bah regardez, Robin est révolutionnaire. Mmh. Et ça s'inscrit politiquement dans le contexte de l'époque, mais en Angleterre, le conservatisme qui veut aller à l'encontre de ça, qui veut finalement défendre le monarchisme contre cet esprit révolutionnaire, va nous ramener vers quelque chose de plus conservateur, vers Walter Scott.
Avec un Robin des Bois des premiers temps très populaire qui s'aristocratise, si j'ose ce néologisme, les siècles suivants et puis qui redevient populaire tardivement, mais ça passe mal auprès des conservateurs. Justine Breton.
Oui, et c'est vrai que c'est lié à chaque fois, alors au public qu'on va chercher à, auquel on va chercher à s'adresser dans les différentes œuvres et à l'évolution aussi des modalités de diffusion. Parce qu'on voit qu'à partir du 18e et surtout au 19e siècle, on a ces rééditions constantes hein, de Ritson et ensuite on va avoir, alors, d'autres textes, hein, comme Howard Pyle qui va, à fin 19e siècle, en 1883, il va faire sa propre réécriture en fonction de ses souvenirs d'enfance, mais qui va en plus illustrer. Et là, on est au moment où l'imprimerie a vraiment explosé et où on a la possibilité, suite au Broadside, suite au Chapstick, enfin, tous ces textes imprimés de façon très rapide, qui coûtent peu cher à produire et qui coûtent peu cher à acheter, on va avoir une diffusion massive qui, petit à petit, va élargir aussi le public parce qu'on va avoir un public de plus en plus populaire, de moins en moins capable de lire aussi des grands textes, qui va se mettre à découvrir les aventures de Robin. Donc on va avoir plein de versions différentes, avec aussi des textes qui vont être adaptés pour un public populaire, pour des enfants, et de fait, comme on s'adresse à un autre public, on va altérer petit à petit les valeurs que transmettent Robin et ses compagnons.
C'est une histoire sociale, cette histoire du banditisme. Eric Hobsbawm.
Je me suis occupé d'abord d'un phénomène foncièrement rural, c'est-à-dire le banditisme social. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui ai lancé la phrase qui a été beaucoup reprise depuis. Il existe maintenant une énorme historiographie du banditisme qui, en général, n'accepte pas mes conclusions, mais passons. Même, ça commence avec mes études. Et ce qui m'avait tenté là, c'était évidemment l'uniformité des croyances qui s'accumulent autour de la figure du brigand au grand cœur. Partout, de la Chine au Pérou, de l'Espagne aux États-Unis, n'est-ce pas, on se raconte les mêmes anecdotes, les mêmes mythes. C'est toujours le type qui prend riche pour redistribuer aux pauvres, qui ne tue que pour des causes justes, etc., etc., etc. Enfin, je ne dis pas que ça soit des croyances réalistes, mais voilà, ils sont quasi universels.
l'historien Eric Hobsbawm, qui a étudié les brigands. Là, il s'exprimait sur France Culture en 1992, mais ces brigands, à lui, son étude, c'est la fin des années 1960 et paru en France un tout petit peu plus tard dans les années 1970. William Blanc.
Alors, bon, évidemment, là, c'est une étude, en fait. Hein, donc, je crois que son livre Bandit, en fait, c'est 69. Hein, donc, voilà, c'est ça, on est encore une fois, mais le contexte, il est important, même en histoire, en fait, hein, même en production de sciences historiques, en fait. Hein, c'est pour ça qu'on fait de l'historiographie. C'est que, le contexte, il est important. On est à la fin des années 60, on a une époque, voilà, de révolte. Et Hobsbawm, qui est un marxiste, en fait, un grand historien, évidemment, je pense qu'en écoutant ça, il a tendance à systématiser quelque chose, en fait. Hein. Il dit, voilà, tous les peuples ont des bandits sociaux, en tout cas, ça, on le retrouve partout. Et il emploie le terme d'uniformisation ou d'uniformité, en fait. Et c'est là, en fait, où je pense qu'une étude, en fait, plus précise, en fait, au cas par cas, par exemple, de la figure de Robin des Bois, montre que c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'on en a parlé un petit peu, donc, t'as parlé de Pyle, en fait, qui est un auteur américain, donc qui publie son Robin des Bois en 1883, si je me souviens bien. En fait, au même moment, donc aux États-Unis, vous avez un personnage réel, en fait, un bandit réel, hein, donc Jesse James, qui est comparé à Robin des Bois. Mais Jesse James, c'est un ancien sudiste. C'est un partisan de l'esclavagisme. Oui, il est lié au Ku Klux Klan, en fait. Hein, donc, et en fait, quand on dit les gens qui le comparent à Robin des Bois, c'est généralement des partisans de la ségrégation et qui disent en gros, il résiste notamment à l'industrialisation qui vient du Nord, à l'État fédéral du Nord, en fait. Hein. Donc vous voyez, en fait, vous avez au même moment, et ça c'est on parlait de Millefeuille, en fait, voilà, mais c'est au même moment où vous pouvez avoir des interprétations contradictoires, hein, de la figure de Robin des Bois. Et ça dure encore aujourd'hui. Vous avez des interprétations, en fait, hein, conservatrices de la légende. Vous avez aussi des interprétations très progressistes, hein, voire révolutionnaires de la légende. Ça pose au même moment, en même temps, ça se pose aucun souci.
C'est le caractère vraiment malléable d'une légende comme celle de Robin des Bois. On en a plein, on parlait du roi Arthur tout à l'heure. Mais c'est l'idée d'un personnage sur lequel on peut projeter un petit peu tout ce qu'on veut. Il y a cette idée que c'est un bon personnage, il est positif, Robin. On a gardé cette image-là, alors qu'effectivement, on a des textes du Moyen-Âge où c'est pas forcément le mec qu'on a envie de croiser en forêt. Mais on a gardé cette image. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on compare quelqu'un à Robin des Bois, on peut mettre plein de choses derrière, mais il y aura cette idée positive. C'est exactement ce qui se passe avec Jesse James et en fait avec d'autres figures comme ça. On a eu Mérine, on a eu des bandits réels en France et un peu partout. Il y a l'idée de vol, mais il y a l'idée de pour quelle raison on vole. Donc on va mettre une interrogation morale, une question de justice derrière des délits, derrière des crimes. Mais en fait, chacun, et en fait chaque époque et presque chaque auteur, chaque interprétation est libre de mettre les valeurs qu'ils veulent. Donc c'est à la fois une figure très pratique parce qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut et en même temps qui peut être très, alors dangereuse, hein, je mets des gros guillemets, mais très ambivalente parce que justement on peut lui faire dire ce qu'on veut.
Il y a l'idée de taxe, mais aussi faut-il savoir pourquoi on taxe.
Exactement.
Ah, oh, voilà qui annonce encore un jour de quête pour les pauvres, un vaillant compère.
Oui, merveilleuse charité.
Les taxes, magnifiques taxes.
Sire, vous avez un merveilleux don pour inciter les pauvres à donner leur argent.
En termes choisis, mon cher conseiller, je dérobe aux pauvres afin de nourrir les riches. C'est petit, hein? Et dis-moi, quelle est donc notre prochaine étape, Persifleur?
Oh, un instant, j'ai des... Oh, eh bien, notre prochaine étape est Nottingham, Majesté.
Oh, c'est une étape qui rapporte Nottingham.
Oh, parfait, Majesté. Cela vous va ravir, comme la couronne du roi Richard sied à votre noble front.
Oui, elle sied. Ah, le roi Richard! Je t'ai interdit de mentionner le nom de mon frère.
C'est ma langue qui a fourché, gracieuse majesté.
Le Robin des Bois de Walt Disney en 1973 avec Jean Santerre. Juste, Jonathan Fruocco, à quel moment donc se fixe cette histoire au sens où le contexte est très précis? Richard Cœur de Lion est parti en croisade, son frère Jean Santerre prend son trône en fait, et ça se passe mal avec un Robin des Bois qui devient un peu politique ici.
C'est ça. J'ai alors. pense qu'on doit à peu près ça à John Major, qui est un chroniqueur historien écossais, mais qui, contrairement aux autres chroniqueurs écossais, lui a beaucoup voyagé et a notamment été en poste à Paris, et ce qui lui vaut d'être cité par Rabelais, notamment.
Donc un homme du XVIe siècle.
Un homme du XVIe siècle. Et c'est au XVIe siècle qu'on a vraiment John Major qui va situer, mais au passage vraiment en une phrase, en disant « je crois que c'est à l'époque de Richard Cœur de Lyon que se situe Robin des Bois ». C'est vraiment juste comme ça, et c'est ce qui, ça va être la pierre angulaire un peu de cette association historique, et ça marche assez bien finalement entre ce que représente Robin et tout le potentiel de cette époque pleine de révolte et d'usurpation. Et
puis Richard Cœur de Lyon, ça évoque, enfin son frère aussi, hein, mais Aliénor d'Aquitaine, ça évoque tout un univers. Justine Breton, dans cette évolution du personnage, ce Robin des Bois du XXe siècle, celui du dessin animé de Disney, qui est-il ?
Alors déjà, celui du dessin animé de Disney, à l'origine, c'est pas Robin des Bois. Ça, c'est toujours intéressant, c'est que Disney, à l'origine, voulait adapter le roman de Renard, un autre ensemble de textes du Moyen-Âge, d'où le fait que ce Robin ait une apparence de renard et qu'on ait des animaux partout, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le roman de Renard, c'est très très chouette, hein, mais c'est très peu adapté aux enfants. On a quand même beaucoup de textes qu'il faudrait énormément édulcorer pour que ce soit adaptable. Donc Disney, l'équipe de Disney fait un peu volte-face, mais garde les dessins, garde les premiers travaux préparatoires qui avaient été faits. Donc on va associer ensuite Robin à un renard, ce qui marche plutôt bien, hein, parce qu'avec cette idée de vol et de ruse qu'on va maintenir autour du personnage, donc ça marche plutôt bien. Et à partir de là, quand on a ces réécritures, surtout à partir du 19e siècle et au 20e siècle, qui vont beaucoup se destiner à un public familial et à un public d'enfants, à partir de là, Robin, c'est certes un voleur, mais on ne peut pas mettre un voleur comme modèle pour la jeunesse. En France, on a littéralement une loi qui pose problème pour ça, la loi de juillet 1949. Sur les publications destinées à la jeunesse, il ne faut pas valoriser le crime. Il faut que donc les méchants soient punis et que les gentils gagnent à la fin. Ce qui fait qu'on va certes reprendre Robin, mais on va réécrire le personnage pour montrer que s'il vole, c'est pour lutter contre l'injustice. Et que lui, il est forcément du côté du bien, alors que le méchant, ça va être celui qui représente le pouvoir en place, qui est en l'occurrence un pouvoir conçu comme usurpé, qui est le pouvoir de Jean Santerre. Donc on va réécrire, réinterpréter et associer des valeurs morales au personnage pour montrer que, bon, certes, il vole, mais en fait, il rétablit une justice qui était perdue.
On va si loin, William Blanc, j'ai l'impression parfois on ne reconnaît même plus Robin des Bois quand on voit les évolutions dans les séries télévisées. Le personnage échappe même à sa propre légende.
Oui, alors en plus le film de 73 de Disney, il est très intéressant parce que c'est quasiment une réaction au film de 38. Le film de 38, c'était un film clairement social, très politique, anti-nazi, réalisé notamment par la Warner, donc qui a pris position contre le Troisième Reich. Un film qui a été fait dans le contexte du New Deal, en fait, où on insiste beaucoup sur la question sociale dans ce film-là. Là, si vous écoutez bien le film de Disney, qui est absolument, que j'aime beaucoup, évidemment, mais si on écoute le film de Disney, on se rend compte que l'oppresseur, c'est celui qui prend des impôts. Mm-hmm. Et dans un contexte américain, on est en 73. Disney est une entreprise qui est connue pour, à l'époque, pour ses positions très conservatrices. Le gouverneur de la Californie où se situe Disney, c'est Ronald Reagan. Donc on est au début, en fait, de ce qu'on va appeler aujourd'hui, ce qu'on peut appeler le libertarianisme, en fait, l'école libertarienne. Et donc ce qui fait qu'il y a vraiment cette idée que, en gros, celui, le méchant, celui qui prend les impôts. Donc il y a une transformation qui est intéressante là.
Et c'est ce qui est, en fait, intéressant vraiment, cette association de Robin des Bois avec la jeunesse, comme a pu l'écrire Justine et comme tu le disais, William, c'est qu'en dépit de tout ce que peut dire le film de 73, en dépit de ce message-là secondaire, ce qui reste, c'est l'essence de Robin des Bois. Et il y a des générations d'enfants qui ont grandi avec cette image de Robin des Bois. Ce que nous dit Robin, c'est qu'on a une possibilité de révolte face à l'injustice. Et c'est ce que, il y a une phrase de Jean-Paul Sartre que j'aimais beaucoup qui est méfiez-vous des enfants sages, ce sont eux qui font les révolutionnaires les plus terribles. Et je trouve que ça marche parfaitement bien, cette idée que, quoi qu'il arrive, Robin nous donne le potentiel de révolte.
Et Avec très peu de femmes dans cette histoire-là, on l'a dit, Marianne, mais c'est à peu près la seule.
Une, hein, voilà, globalement. On a maintenant, depuis le début du XXIe siècle, quelques réécritures où on ajoute une fille, une sœur, etc. Mais globalement, on est un peu sur le principe de la schtroumpfette, hein, c'est-à-dire qu'on a un personnage féminin qui représente la femme et plein de personnages masculins qui gravitent autour.
Combien de feuilles avons-nous évoquées autour de Robin des Bois? Seulement quelques-unes. Ben, les autres feuilles, ce sont celles qui composent votre ouvrage à tous les trois. Robin des Bois, de Sherwood à Hollywood, publié chez Libertalia, William Blanc, Justine Breton, Jonathan Fruoco. On retrouve sur le site franceculture.fr vos différents ouvrages, parce que là aussi c'est passionnant pour explorer tant d'autres univers en parallèle avec Robin des Bois. Merci vivement d'être venu dans le cours de l'histoire. Beaucoup. Et prochain épisode, encore des brigands, mandrins, cartouches, toute la bande, la bourse ou la vie, bande et contrebande organisée.
Et maintenant, mon or, où est-il?
Je t'aime.
Normal.
Oh. Bienvenue!
Il s'appelle Cartouche!
Cartouche! Qui est notre chef? Vous me voulez comme chef?
Oui!
Vous allez m'avoir! Vous me suivrez jusqu'à la corde?
Oui!
Pas la peine de dire oui, je l'ai dit pour vous.
Eh ben voilà, c'est comme ça. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui la technique d'Alia A, émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.